c'est le retour de Boulevard 102.1.
Sans tarder, 16h37, on retourne dans la circulation, Audrey.
Oui, bien, un rappel sur Charest Est, peut-être pour commencer. Là. L'accès à l'avenue Dalton est fermé. Accident qui s'est passé un petit peu plus tôt aujourd'hui qui fait en sorte que c'est pas encore accessible. Si je regarde la carte, Capitale Est, c'est pas terminé entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, hauteur de Laurentienne. Si vous êtes sur le Robert Bourassa, direction nord, ça se passe.
Le Robert Bourassa.
Le Robert Bourassa, merci, Véro.
Pas se mélanger, hein?
Mais non, c'est ça, faut juste être clair.
Ah oui.
Entre Charest et la Capitale, c'est encore au ralenti également. Des problèmes inhabituels sur Henri IV nord. Entre
le
Charest.
Henri IV.
Le Henri IV et le Charest.
C'est d'accord. Bel et bien lui.
Je suis contente que vous suivez, c'est le fun.
Beaucoup de masculinisme hein, aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Henri IV sud, c'est comme à l'habitude, entre le versant nord et le pont Pierre-Laporte. Des problèmes également sur Duplessis sud à partir de chemin Sainte-Foy. C'est pas terminé dans le coin de Shannon devant la base militaire dans les deux directions. Et pour ce qui est de la rive sud, ça se passe surtout sur la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et chemin des îles. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 texto.
On va retrouver Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil, qui est en studio. Judith, bonjour.
Allô.
Encore des belles histoires réjouissantes de Palais de justice.
Oui.
Puis avant de parler d'une histoire qui saisit particulièrement pour les gens qui vont voir les photos qui sont publiées, entre autres, dans ton texte du Soleil, peut-être revenir sur l'actualité récente, la oui. découverte d'un corps à Québec. Puis je sais que Judith avait peut-être des petits détails supplémentaires à nous donner là-dessus,
oui.
Véro.
La SQ qui a repêché un corps en début d'après-midi dans le secteur du Quai 22 à Québec, donc entre le... qui est dans le secteur du Place des Canotiers, puis la place où on s'en va prendre le Louis-Joliette, mettons. Oui. Puis les policiers qui ont donné très peu de détails au moment de la conférence de presse en disant que c'était une enquête qui était évolutive, qu'il n'y avait pas eu d'identification formelle du corps. Par contre, il y a des possibilités que ce soit le corps de Susanna Rochacruz, la femme qu'on recherchait dans le secteur de Sainte-Foy depuis hier. On avait installé un poste de commandement. D'ailleurs, dans ce secteur-là, on a récidivé d'ailleurs aujourd'hui à la recherche d'autres informations. C'est sur la rue Villieu qu'on avait concentré les efforts hier en soirée. Des recherches dans le secteur des sentiers de Cap-Rouge, derrière les Floralies Jouvence. Puis là, on attend la suite des choses. Puis surtout qu'hier soir, il y a un individu qui a été accusé de s'être livré à des voies de fait contre la victime, de lui avoir causé des blessures corporelles. Donc, Abraham Gonzalez-Lyon, 43 ans, un gars sans antécédent judiciaire, mais ça aurait été fait dans un contexte de violence conjugale, les deux qui auraient déjà une relation. Puis on sous-entendait déjà rapidement qu'il y aurait peut-être d'autres accusations qui pourraient être déposées contre l'individu.
À partir du moment, Judith, où on détient le suspect principal puis qu'il y a des accusations de déposé, ça devient moins une course contre la montre, j'imagine.
Bien, tout à fait, surtout qu'il reste détenu parce que le crime est déjà assez grave. Là. Il est accusé de voies de fait lésion.
Mm-hmm.
Donc, puis ça, il y avait assez de motifs pour l'accuser à ce moment-là parce que quand il était accusé, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de corps. Donc, ouais. C'est un peu dur.
Puis on ne peut même pas encore le lier au corps parce que le corps n'a pas été identifié.
Voilà, exact. Donc, manque de preuves et tout. Donc, non, c'est ça, ça presse pas. Il est en prison, donc même s'il revient, parce que là, il revient devant la cour le 20 janvier, s'il y a d'autres accusations à déposer, ça peut attendre à cette date-là parce qu'il ne se sauvera pas puis il ne fera pas de mal à personne en attendant puisqu'il est en prison. Donc, on va être sûr de ne pas se tromper, en fait.
On s'achète du temps, dans le fond, à partir du moment où la personne est détenue puis qu'on l'a entre nos mains puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est ça. Donc, ça rajoute du sable dans le sablier, on pourrait dire ça comme ça. Dossier à suivre, évidemment. Habituellement, les histoires de cocktails Molotov, c'est des histoires de règlement de compte qui sont liées aux groupes de motards criminalisés, aux groupes qui vendent la drogue.
Souvent, ça va même pas devant la cour. Là. C'est comme ça plaide coupable puis datite.
Tout à fait.
Mais là, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses qui la rendent unique. Entre autres, le fait que le motif n'est pas éclairci.
Oui, c'est un procès qui tient essentiellement sur l'identification de la personne. Est-ce que c'est lui qui l'a fait ou non? Donc, souvent, quand on entend mon procès, il y a des admissions qui sont faites. Donc, on admet que l'accusé était là au moment du crime. Mm-hmm. Mettons qu'on parle d'agression sexuelle. On va admettre que c'est lui qui a une relation sexuelle avec cette femme-là, mais que là, on essaie de décider si c'est une agression sexuelle ou encore si c'est un meurtre. Souvent, les procès vont tenir sur, bon, légitime défense ou est-ce que...
Les interprétations, les incarnations.
Y avait-tu vraiment l'intention d'être là? Comme là, pour un incendie criminel, ça peut être, hey, c'est un accident, j'ai pas fait ça pour mettre le feu. Mais là, c'est vraiment... Non, c'est pas moi qui les ai lancés, les cocktails Molotov, même si l'enquête dit que je l'ai fait.
Fait qu'à partir du moment où la personne dit c'est pas moi qui les ai lancés puis qu'on n'a pas d'autres suspects, ben c'est dur d'établir un motif.
Ben en fait, c'est que c'est on n'en a pas besoin. Parce que c'est pas là-dessus que la question se pose. Mmh. Le motif, s'il vient à être déclaré coupable, va arriver plus tard pour la peine.
On en a besoin dans le sens où, Judith, les cocktails Molotov ont été lancés d'une chambre d'enfant.
Bon, ouais, c'est quoi le contexte de cette histoire-là?
En fait, là, c'est Jason Potier-Martin qui est accusé. Et ça s'est passé en août 2022. Donc, ça fait déjà un petit moment. Il y a eu beaucoup de changements d'avocats dans ce dossier-là, des rebondissements et tout. Donc là, on tient finalement le procès. Et c'était pendant la nuit. Des parents, ils se réveillent en sursaut parce qu'ils entendent une fenêtre qui s'est fracassée. Ils savent que ça a l'air d'être dans l'appartement, mais ils sont pas sûrs. C'est peut-être les voisins. Tu sais, quand tu dors, tu le sais pas. Mm-hmm. Puis rapidement, le beau-père se lève et fait le tour de l'appartement. Puis il entend la fille de sa conjointe là, qui était dans la chambre tout près hurler et pleurer. Et c'est là qu'il se dirige...
Une fille de 3 ans.
Oui, fille de 3 ans. Elle dormait avec son frère de 9 ans dans la même chambre. Puis c'est là qu'il arrive et que les écoutez, le cocktail Molotov est tombé directement sur le lit de la petite.
Ah ben.
Et donc, un cocktail Molotov, c'est une arme incendiaire artisanale. C'est un liquide que tu mets dans la bouteille en verre. Et quand la bouteille explose, se brise, ça fait une explosion. Puis là, étant donné que la bouteille est tombée sur le lit, elle n'avait pas explosé. Fait que je sais pas si...
C'est le feu dans le fond du
c'est le feu qui a pris dans les couvertes. Mais si, mettons, ça avait tombé sur le plancher puis ça avait explosé, on aurait eu encore plus de dommages parce que là, on aurait eu une espèce de bombe.
On aurait eu des morts aussi.
Oui. Donc, c'est écoute, la petite a pas été chanceuse. Là. Elle est brûlée au troisième degré sur plusieurs parties de son petit corps. Et là, les parents ont agi rapidement. Il y avait un garçon de 9 ans traumatisé aussi qui ne savait pas trop quoi faire. Ils ont éteint rapidement le feu sur la petite et ils ont quitté les lieux. Et comme c'était juste le lit qui était enflammé, le beau-père, l'homme, toute l'identité des gens sont protégées là-dedans étant donné que la petite est mineure. Mm-hmm. Puis, il a essayé d'éteindre le feu sur le lit en disant, tu sais, je vais garder le contrôle. Et puis, c'est là qu'il trouve la bouteille pas explosée, je vous rappelle.
Mon Dieu!
Donc, il la prend et il la lance dans la rue. Puis, c'est là qu'elle a explosé.
Sinon, elle aurait pu exploser à l'intérieur,
oui,
j'imagine.
C'est pour ça qu'il s'en débarrasser rapidement du balcon. Et là, c'est là...
Quel réflexe!
Là, tu sais, mettez-vous à sa place. Là, il y a l'adrénaline. Là, il sait pas trop. Là, il comprend que, dans le fond, on a lancé ça dans la chambre. Il voit la fenêtre fracassée. Fait que là, c'est 1 + 1 + 1 + 1. Puis là, en essayant de continuer d'éteindre, il voit une autre bouteille. Fait que là, c'est à ce moment-là, il dit, OK, là, je sais pas. Là.
C'est quoi? Il y a deux bouteilles qui ont été lancées?
Il y en avait deux qui ont été lancées. Ouais. Donc là, il dit, bon, je sais plus quoi faire. C'est à ce moment-là qu'il quitte carrément le logement, qui dit aux voisins de sortir parce que là, le feu a comme pris trop d'ampleur dans la chambre.
Publié avec ton texte du soleil, il y a deux photos. OK?
Ouais.
La photo de la chambre.
On peut donner un avertissement.
Qui est saisissante, ouais. Là, parce que tu vois l'étendue des dommages, puis tu peux t'imaginer plein de choses. Puis l'autre photo, c'est la photo du pied de l'enfant. Ouais.
Peut-être un mot de pourquoi elle est là?
Ben, c'est ma question, ouais. Parce que ça m'a surpris de voir ces photos-là. Puis je voulais te poser la question parce qu'il y a eu d'autres photos vraisemblablement,
oui,
là, de
plusieurs
montrer.
Plusieurs photos ont été déposées, okay, au tribunal. Il y en a plusieurs qui sont sous ordonnance.
Comment on décide ce qu'on publie et ce qu'on publie pas? Puis qu'est-ce qu'on peut ou ne pas publier dans des circonstances comme celle-là?
Bien, c'est, je pense qu'on fait attention là, dans les victimes. Puis dans ce cas précis-là, c'est que là, on parle d'un incendie criminel causant des lésions sur une fillette de 3 ans et j'estime qu'il est important de voir l'étendue des blessures. Et quand je vous parle, je vous dis brûlure, troisième degré, ça donne pas nécessairement une image et peut-être une gravité. Donc, la photo, elle est juste pour montrer à quel point c'est grave ce qui s'est passé. C'est pas juste un incendie criminel banal. Et la petite, elle a souffert de ça. Là.
Écoute, c'est un...
Elle va souffrir toute sa vie en passant.
C'est la photo d'un pied recouvert d'immenses cloques. Là.
Les cloques sont plus grosses que le pied.
Oui, ça tord le corps et ça tord le cœur juste de les regarder.
Il y avait une image aussi parce que c'est un petit pied.
Ouais.
Donc, ça fait encore plus mal quand c'est sur une enfant.
Est-ce qu'on doit avoir des autorisations au préalable, oui, du juge pour publier des, oui, photos comme ça? Vous devez les demander, c'est ça?
Bien, en fait, ça dépend. Les procureurs déposent sous scellé, qu'on appelle, mm-hmm, ou non. Et là, à ce moment-ci, il y a des discussions à savoir, bon, est-ce que le sous scellé est justifié? Et on peut, parfois, quand on veut des choses qui sont sous-scellées, on peut en discuter avec les procureurs. Si le procureur est d'accord, il peut le demander au juge. Et si le juge est d'accord, il va sortir la photo. Des fois, le procureur n'est pas d'accord. Les médias peuvent le demander quand même, mais laisser au juge de trancher. Puis dans ce contexte-là, il fallait demander aussi la permission aux parents, parce que c'est juste une question de principe aussi. Et de respect. Et tout le monde a accepté là, de monter cette photo-là du pied, parce qu'évidemment, il y en avait d'autres là, de tout le corps de la petite.
Jason Potier-Martin dit que c'est pas lui qui a lancé les cocktails Molotov. Moi, j'ai écouté plusieurs saisons de CSI.
T'es un expert.
Et la preuve... Non, mais habituellement, dans ces émissions-là, on ramasse de la preuve circonstancielle qui fait en sorte que t'as suffisamment de détails pour dire « Come on, man! » Je comprends qu'on t'a pas filmé en train de les lancer, mais tout nous montre que c'est toi qui les as lancés. Et dans ce cas-là précis... On dirait une émission de CSI où le gars est coupable.
Une émission de 15 minutes, par exemple.
Parce que moi ça me choque qu'on aille un débat, puis je comprends que... Tout le monde a droit à un procès juste et équitable. Mais raconte-nous le circonstanciel qui fait en sorte qu'on présume très, très fort que c'est lui qui les a lancés.
Puis tu l'as bien dit, ce procès-là repose strictement sur de la preuve circonstancielle. Et le mandat du procureur dans ce temps-là, c'est de déposer sa preuve puis qu'il n'y ait pas d'erreur. Voici l'enquête s'est déroulée comment, elle s'est bien déroulée, voici pourquoi nous on en arrive à cette conclusion-là. Donc, il y a plusieurs témoins là, qui disent avoir vu Jason Potier-Martin dans les moments avant le drame, là, dans la soirée, tard le soir. Et Jason Potier-Martin a un tatouage au cou. Donc, facilement...
Qui est dur à manquer, là.
Ben voilà. Ouais. Donc, les gens sont très catégoriques. Tout le monde dit l'avoir vu, tout le monde dit le reconnaître. Son tatou aide énormément à l'identification. Et donc, il y a eu d'abord ça. Ensuite, on a recueilli les éléments de preuve sur la scène. Comme je vous dis, les bouteilles, il y a une des bouteilles qui n'était pas explosée, l'autre a été ramassée et on a pu déterminer c'est quelle bouteille, de quel liquide avait été utilisée.
C'est des bouteilles très particulières.
Ben, c'est des bouteilles de marque Tradition. C'est de la limonade qui est à l'intérieur. C'est des bouteilles en verre. Oui. Ça se vend dans quelques dépanneurs à l'épicerie. Et donc, à partir de ça, les policiers sont allés faire le tour
des dépanneurs
autour pour voir, bon, est-ce que quelqu'un avait acheté ce type de bouteille-là récemment?
Des caméras de surveillance, on a regardé les images.
Oui, ben il y a un dépanneur à 250 mètres de la maison du logement incendié qui dit, ah ben oui, j'en ai vendu, j'en vends pas souvent de ces affaires-là.
Fait que tu remarques.
Donc, je le sais, et l'inventaire est facilement tenable.
Et laisse-moi deviner, le gars qui en a acheté, il y avait un tatou dans le cou.
Ben oui.
Puis on a une image.
Tout à fait. Les caméras de surveillance ont capté Jason Potier-Martin acheté ces deux bouteilles-là et de la saveur qui avait... La même saveur, en fait. Parce que c'était une bouteille à la clémentine qui avait été utilisée et Jason Potier-Martin a acheté à la framboise et à la clémentine.
Fait que lui, il reconnaît avoir acheté les bouteilles et ne reconnaît pas les avoir lancées. Oui. Tu te défends comment de ça?
Ben là, il a comparu cet après-midi.
Ouais.
Très décousu, très... parlait vite, parlait de tout bord, tout côté, avait de la misère à répondre aux questions précises, mais essentiellement n'a pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette soirée-là. Dit être sorti, avoir déambulé, parce qu'il habite dans le secteur, être sorti pour fumer, notamment, être allé au dépanneur acheter cette limonade-là, mais n'a pas vraiment porté attention à ce qu'il achetait, parce qu'il achetait une slotch aussi en même temps. Et finalement, il dit qu'il ne sait pas il était où, il ne s'en souvient pas au moment où les cocktails Molotov ont été lancés, mais il sait qu'il n'était pas là.
Il y a d'autres détails circonstanciels.
Oui, on a retrouvé de l'essence sur ses effets personnels parce qu'après l'avoir arrêté, on a fait une perquisition dans son logement. Puis l'essence, c'est entre autres ce qui est utilisé pour créer des cocktails Molotov.
On n'a pas affaire à un génie du crime. Comment il peut justifier... d'avoir acheté des bouteilles qu'il a vidées, parce qu'en plus, il a acheté une slush parce qu'il avait soif. Et en plus, le fait qu'on ait retrouvé l'essence qui a vraisemblablement servi à remplir les cocktails Molotov. Ben, comment ça se fait qu'il y avait de l'essence sur lui?
Lui, dit que ça se peut arriver dans son travail. Il est soudeur, donc ça se peut que ses vêtements aient été souillés par le travail. Il dit que tout ça, dans le fond, il a dit que la police et le procureur spéculaient et que c'était lui et qu'il n'y avait pas... que lui maintient dur comme fer sans nous donner d'autres alibis là, qu'il n'était pas là.
C'est un gars qui a un dossier criminel, Judith?
Oui. il y a des antécédents.
Okay.
Par contre, je ne les ai pas revérifiés avant d'arriver en radio avec vous, donc okay. je ne vais pas vous dire n'importe quoi.
Mais il y a des antécédents.
Il y a quelques antécédents pour des petits crimes par-ci, par-là, là, des 2 ans moins un jour.
Le circonstanciel de l'objectif, c'était quoi? Est-ce qu'on visait cet appartement-là? Est-ce qu'on visait quelqu'un d'autre? Est-ce que tout ça va être abordé éventuellement?
Ça se peut que non, en fait, parce que ça se
peut. C'est pas ça qu'on veut prouver, dans le fond.
Ben,
c'est quand même spécial.
Présentement, là, l'objectif, c'est de prouver que c'était lui. C'est le juge qui va devoir trancher, à savoir si, bon, lui, il croit Jason Potier-Martin ou non. Et après ça, il va falloir donner une peine. Donc, peut-être que si jamais Jason Potier-Martin se souvient que c'était lui ou si jamais il finit par reconnaître s'il est coupable, ben là, peut-être va-t-il formuler des explications à son crime qui pourraient réduire ou même aggraver la peine. Mais là, on n'est pas rendu là.
Pas de détails narratifs non plus sur la petite famille. Je comprends qu'on garde leur identité.
Ben, ils maintiennent qu'ils ne se connaissaient pas. Là. Eux, ils ne connaissent pas cet individu-là et cet individu-là lui-même dit qu'il ne connaît pas ces gens-là. Là. Donc, il n'y aurait pas de lien. Là.
C'est weird. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages qui vont être entendus?
Non, là, le procès est terminé. Les plaidoiries, c'est fini. Les plaidoiries seront demain. Donc là, c'est à ce moment-ci que les procureurs résument un peu leurs preuves respectives et essaient de convaincre le juge d'une culpabilité ou non.
Judith, dans une histoire comme celle-là, avec des photos qui saisissent, le côté positif de ça, c'est quoi?
Je te l'ai dit, des fois, ça allait être plus dur.
On est dans ce genre de circonstances-là, là, hein?
Je vais saluer les méthodes d'enquête qui portent fruit et qui ont bien été faites parce qu'il a quand même été arrêté rapidement. Il a été arrêté dès le lendemain. Donc, la police de Lévis n'a pas perdu de temps, a fait son enquête.
T'as raison.
A trouvé le suspect. Il s'est pas enfui.
Beaucoup de circonstanciels incriminants.
Voilà.
Ouais.
Okay. J'ai envie de saluer le travail de la police de Lévis.
T'es créative, j'aime ça.
Je suis sincère.
Ben à partir du moment où il sera reconnu coupable, je vais embarquer dans ton bandwagon. En attendant, je me garde une petite gêne. Judith, merci infiniment.
Merci à vous.
Puis on se tient au courant de cette histoire-là puis de toutes les autres qui sont dignes d'être racontées avec toute l'humanité que tu leur donnes. Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil. Vous pouvez aller lire le texte, évidemment, mais pour les images, je vous le dis tout de suite, cœur sensible, s'abstenir, on vous aura averti. Il est 16h53, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Gravel dans le retour.